Oui, bonsoir à nouveau. Vous êtes bien sur 106.3 FM. Dans le mode d'emploi 106.3 FM, fréquence pluriel, avec nos invités, dont je rappelle les prénoms, merci.
On va y arriver. Caroline, merci. Hélène et Clémence.
Super, merci à tous.
Et vous êtes bien sur SPP.
Et voilà, merci Ludo. Bah, comme quoi, même si on est au chômage, on peut se marier un petit peu. Non, je plaisante.
Carrément.
Voilà, donc j'aimerais qu'on reparle un petit peu de la mobilisation, donc effectivement, du 18 mars. Tu peux nous en parler un petit peu ou...
Oui, bon, alors ça, c'est donc une mobilisation à venir. Le 18 mars, il y a une mobilisation européenne pour à Francfort pour l'inauguration de nouveaux bâtiments de la Banque Centrale Européenne. Et qui, généralement, ces mobilisations-là sont quand même déjà assez fortes. Mais cette année, ça va avoir une répercussion particulièrement importante par rapport à ce qui s'est passé en Grèce. Et parallèlement, en fait, c'est pas loin de la date anniversaire de la signature du protocole de l'UNEDIC de l'année dernière. Et on fera évidemment un lien par rapport à cette signature, qui c'est ce lien qui se fait, enfin justement sur les règles européennes pour la quant à la façon de gérer le chômage. Et d'ailleurs déjà au moment du 14 novembre qu'on a évoqué tout à l'heure. À Paris, on avait occupé l'OCDE justement pour évoquer ce côté européen du problème. Et on va faire un espèce de parallèle aussi à l'occasion du 18 mars.
Quand même, oui, l'Europe, sur l'Europe, oui. Il y a des choses à dire.
Il y a des choses. Enfin, justement, c'est vous qui allez nous le dire. C'est que finalement, on voit assez peu l'Europe, disons directement influencée sur les règles d'indemnisation du chômage.
C'est des directives. C'est des directives qui imposent de mettre des cadres financiers dans lesquels il va falloir réussir à subsister, soi-disant.
D'accord. Et donc, du coup, est-ce que des mobilisations intra-européennes sur cette question du chômage et de la précarité...
Bien sûr. Donc le 14 novembre, c'était à la suite d'un premier strike meeting qui avait eu lieu en Italie, il y en a eu un deuxième dernièrement où il y a des Italiens, puisque c'est chez eux, des Allemands, des Français, des Belges, des Grecs, des Portugais, des Espagnols. Et dans tous ces pays-là, il y a en effet énormément de problèmes. Oui.
Alors après, on n'en parle pas beaucoup à la télé, on va dire, hein, ou dans les médias en règle générale.
Non, on sait bien la désinformation que fait en général la télévision.
18 mars, donc il faut aller manifester.
Est-ce qu'il y a d'autres mobilisations qui sont prévues après cette date-là ou non ?
Il y a des mobilisations qui ont lieu et qui vont avoir lieu. Et qui se décide au fur et à mesure, et qu'on évoquait tout à l'heure le fait que je fais partie de la coordination des intermittents et précaires d'Île-de-France. Il y a d'autres coordinations en France à d'autres endroits, et il y a des réunions avec un peu tout le monde, des coordinations nationales, disons, qui se font ou se discutent aussi les suites à donner et c'est aussi en lien avec toutes les questions de répression qui peuvent exister par exemple le 17 février là il y a eu une mobilisation à Rodez à l'occasion du procès qui était fait à quelqu'un qui est au moment d'une action dans le cadre du chômage l'an dernier avait été accusé de violence sur agent et donc il y en a pas seulement sur les mobilisations chômage mais un peu tout le temps cette recherche de répression de mettre les gens en procès pour les empêcher de lutter, que ça soit sur des luttes sociales, une répression syndicale, on est impliqué là-dedans aussi parce que il peut pas y avoir de mouvement s'il y a ces répressions.
Merci. Est-ce que quelqu'un peut me parler un petit peu de ce collectif qui a été créé en 2009, les Matermitantes, tu peux en parler un petit peu Pourquoi ce collectif a été créé, puisque il y a déjà quand même pas mal de collectifs.
Ben c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est oui. que en fait en 2007, au moment de la fusion Pôle Emploi et enfin pas Pôle Emploi, comment ça s'appelait, la NPE et les ACEDIC, il y a eu des tas de problèmes concernant les congés maternité. Il y a plein d'intermittentes qui se sont retrouvées avec des trop perçus, des indus qu'on a appelé les recalculés. Et donc c'est comme ça qu'on était plusieurs à se rencontrer et que, forte de notre colère, on s'est constitué en collectif et on a fait en 2010 on a fait une saisine collective à la HALD, qui est maintenant le défenseur des droits, pour faire reconnaître la discrimination à l'endroit des femmes enceintes en profession discontinue. Donc ça, c'est quelque chose qui a été acté par le défenseur des droits, qui reconnaît la discrimination fondée sur l'état de grossesse. Et donc c'était aussi là-dessus qu'on attaque la convention UNEDIC, enfin l'agrément dans la requête au Conseil d'État, c'est-à-dire que donc ils reconduisent une convention qui est discriminatoire. Là, c'est reconnu pour les femmes, mais évidemment c'est plus large que ça. Et donc voilà, après le collectif, il a juste une fonction de, on accompagne, on renseigne beaucoup les personnes qui nous contactent, on accompagne on fait aussi beaucoup d'actions au tribunal des affaires de la sécurité sociale. Des actions qu'on gagne très majoritairement, même alors, tout le temps.
J'avais lu dans vos textes que la sécurité sociale avait plus ou moins reconnu qu'elle était en tort, c'est-à-dire qu'elle n'appliquait pas les textes. Alors qu'est-ce qu'il en est ? C'est-à-dire que vous étiez vraiment, en fait, vous étiez dans vos droits. Mais...
Ah ben, on est toujours dans nos droits. Et en fait, voilà. Et donc après, ils ont sorti une circulaire en avril 2013 qui est censée harmoniser un peu l'ensemble des textes pour que toutes les CPAM de France puisse appliquer le droit. Après, voilà, il y a encore des. Enfin, c'est-à-dire que la sécurité sociale dit maintenant tout est réglé, alors que pas du tout, puisque voilà, il y a tous les jours des gens qui nous écrivent parce qu'ils n'arrivent pas, quand ils sont dans leur droit, à obtenir l'indemnisation.
C'est-à-dire que quand Clémence dit on est toujours dans nos droits, c'est surtout que les dispositions du code de la sécurité sociale protègent effectivement. A priori, les salariés en cas de maladie ou de maternité. Sauf que dans la lecture de la réglementation, il y a évidemment des interprétations différentes et une manière de recourir à certains articles ou pas, en fonction finalement des cas qui sont étudiés. Et donc là, ce qui m'amène à dire qu'en fait, il y a aussi, et c'est complètement conséquent au problème d'indemnisation qu'on rencontre, que la réorganisation du travail, notamment au sein de la sécurité sociale comme de Pôle emploi, produit aussi des non-recours aux textes et aux législations en vigueur. C'est-à-dire qu'il y a aussi, dans l'esprit du droit, les salariés de ce pays sont protégés en premier lieu par la Constitution, mais ensuite par des réglementations ad hoc. Sauf que, de plus en plus, l'idée, évidemment, est de réduire ces droits, hein, en raison de soi-disant économies, etc. Donc, on va tout faire pour, d'une part, écorner le texte, et d'autre part, séparer l'esprit de la loi et de la protection. Donc, en séparant, on crée des dispositions différentes, que ce soit du côté de l'UNEDIC ou que ce soit du côté du code de la sécurité sociale.
Ça crée des inégalités dans le traitement des...
C'est du ça coup, oui, d'une part, ça crée des inégalités et ça crée aussi, surtout, des dysfonctionnements et des ruptures de droits. C'est-à-dire que ça provoque la manière dont on regarde et dont on lit le droit aujourd'hui, volontairement, et dont on le transforme aussi, et dont on le grignote, hein, petit à petit, produit de la rupture de droit. Et donc ça, c'est extrêmement important, et on retrouve, comment dire, et justement dans le projet de Friot, ou dans ce type de courant de pensée qui est de
Bernard Friot, hein,
Bernard Friot, pardon. Voilà, de faire appel à des cotisations qui produiraient, enfin je peux pas parler du projet de Friot tellement, mais en tout cas il y a cette idée d'être sur une cotisation continue et donc sur un mode de protection continue, quelle que soit la situation où on est, qu'on soit enceinte, malade, en stage, étudiant, salarié, retraité, etc., et quel que soit le type de salariat, on est protégé. Et ça, c'est extrêmement important parce que, initialement, dans la Constitution, c'est vraiment, c'est, pour l'instant, c'est encore le cadre de cette Constitution, on devrait être protégée complètement.
Ce qui n'est plus le cas du tout.
Ce qui n'est de toute façon plus le cas.
Et ce que je voudrais ajouter aussi, c'est que les problèmes de dysfonctionnement, ils sont aussi liés à une restructuration du travail au sein des CPAM. C'est-à-dire que l'argument de la Sécu, c'est de dire aussi, les agents, en fait, les intermittents, par exemple, c'est des dossiers compliqués, donc ils n'arrivent pas à les gérer, mais c'est parce qu'eux-mêmes, en fait, ont des conditions de travail qui, maintenant, ne leur permettent plus de traiter les dossiers, de passer du temps, d'essayer de comprendre, etc. Donc c'est aussi sur vraiment l'organisation du travail qui, dans des tas d'endroits, est vraiment mise à mal.
Ouais, et on a, c'est exactement aussi la même chose à Pôle emploi, où les gens qui travaillent à Pôle emploi ne peuvent plus faire les missions pour lesquelles ils sont normalement là. On les oblige à essentiellement s'occuper de faire du contrôle et on les empêche de prendre du temps avec les gens. Il y a de moins en moins de d'agents. Et en fait, c'est une restructuration qui est volontaire, qui est complètement volontaire. On fera une parallèle avec une autre mobilisation, mais sur il y a des choix en fait gouvernementaux par rapport à des simplifications, ça c'est le grand terme, administratives, mais ces simplifications administratives, elles sont complètement dans le sens de dépenser moins d'argent pour le gouvernement et pas du tout d'être au service des usagers. Et à Pôle emploi, ça a été travaillé en ce sens-là. Il y a depuis la restructuration déjà, mais il y a notamment des études qui sont faites par Capgemini qui sont des études hyper coûteuses et ils appellent ça du lean management et qui sont pernicieuses parce que on va demander aux gens quel est le problème dans leur travail, ils disent ça, les irritants, quels sont les irritants, voilà. Et en fait, le but, c'est uniquement, parce que ce qui est compliqué, c'est les gens qui arrivent au guichet et comme il y a de Pôle emploi et qu'il n'y a pas assez de monde pour s'occuper d'eux et qu'on leur donne, quand on leur fait, on leur coupe leurs droits ou on leur demande des indus, on ne leur donne jamais une explication de pourquoi on fait ça. Donc les gens sont obligés de chercher eux-mêmes pourquoi, s'ils le peuvent. Et donc, il y a plein de gens qui arrivent au guichet pour avoir des explications qu'on ne leur donne pas. Et donc, évidemment, les agents qui se retrouvent en face de ça, eh bien, ils sont débordés. Et la solution qui va être donnée, c'est quoi ? C'est d'enlever les guichets. Hein ? Les gens, ils vont aller faire plutôt leur demande sur Internet.
On voit aussi dans les CAF.
Ouais. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est de repousser l'usager le plus loin possible, d'abord d'une contestation, mais aussi des personnels eux-mêmes. Quoi.
Le pire, c'est que ces contestations, en fait, comme je disais, c'est souvent lié à des erreurs. Justement, parce que aussi, il n'y a pas assez de gens pour étudier proprement les dossiers. Et que du coup il y a une machine qui sort des résultats et qui on ne sait pas d'où ça vient et il y a souvent des erreurs, mais comme la raison du résultat n'est pas expliquée, et ben pour le contester c'est la croix et la bannière.
À peine a-t-on le temps de vivre, on se retrouve cendre et givre. Adieu. Et pourtant, j'aurais tant à faire avant que les mains de la terre me ferment à jamais les yeux.
Très bien. J'aurais bien aimé quand même avoir un petit avis sur le problème qui s'est passé à Radio France, qui est en grève actuellement là. Donc, est-ce que tu as un petit avis à donner sur ce sujet?
Le problème de Radio France, c'est le dernier service public qui n'a pas encore été attaqué. Donc, la nouvelle direction a tout un projet de restructuration qui consiste, à réorganiser le travail et aussi à externaliser les services comme toute la sécurité, tout le ménage sont maintenant assurés à 80% par des boîtes extérieures. Il y a un grand déficit, le déficit existe, mais à voir comment il a été amené, que l'État, la tutelle, donc, a baissé sa subvention. C'est aussi de dire que pour faire rentrer de l'argent, il faut maintenant louer les espaces à l'extérieur. Donc, c'est aussi des cas où on loue des studios aux grandes entreprises extérieures qui, en fait, ont des effets vraiment néfastes sur les conditions de travail des salariés de Radio France. C'est-à-dire que les studios sont occupés par des boîtes qui font des banquets, des tas de choses qui font que, les espaces ne sont plus disponibles pour les salariés. Il y a aussi un peu un plan social déguisé, puisque comme ils veulent restructurer l'organisation du travail, il y a plein de gens qui vont... Bon, il y a des départs à la retraite qui vont pas être remplacés, plein de salariés qui vont plus avoir de place dans... Enfin voilà, c'est-à-dire que là, ils vont changer les méthodes d'embauche et il n'y a pas de place pour tout le monde, quoi. Donc il y a eu un premier jour de grève pour marquer le coup, et puis il y a une mobilisation plus grande et plus longue qui s'annonce.
Sachant qu'en fait Radio France est un endroit où sont embauchés énormément de précaires finalement.
Ah bah alors Radio France, il y a des gens qui sont embauchés en CDD pendant 3 ans sans un seul jour de carence.
Mais c'est assez représentatif de la façon de fonctionner de généralement en fait, et où on nous donne des prétendus arguments économiques pour faire des changements, alors que le changement il est idéologique absolument, et où c'est toujours des façons de contraindre les gens. Et il y a un véritable mensonge justement dans les discours par rapport à ça, quand sur ce soi-disant argument économique qui est absolument faux. Je ne sais plus ce que je voulais dire.
Oui, c'est une question.
Mais voilà, de la même façon que sur la façon de gérer le chômage, sur la façon de gérer Pôle emploi, c'est partout la même chose. Et de la même façon, à Pôle emploi, Clémence a évoqué le fait qu'à Radio France, il y ait des externalisations et qu'ils disent que maintenant il faut faire des emprunts pour pouvoir faire vivre l'endroit. C'est tout à fait ce qui s'est passé à Pôle emploi aussi, où Pôle emploi est quand même coté à la bourse. Donc, il y a
mais là, c'est ça aussi.
Et sur les externalisations, c'est pas fait pour que le travail soit mieux fait. C'est absolument pas vrai.
Parce que au contraire, c'est pas du tout pour appauvrir
et en général,
les conditions de travail et
ça.
Les contenus. C'est aussi, parce que là, je crois que c'est 60% du budget, c'est la masse salariale à Radio France, donc ils veulent la réduire. C'est Capgemini qui aussi, il y a toute cette question, il y a eu plein d'audits, etc. Ça participe un peu de cette même, de cette même idéologie. L'idée étant que, il y a aussi, en fait, une grande menace sur certaines chaînes, et il y a que FIP peut être supprimé, que France Musique peut être supprimé, parce que l'idée, c'est vraiment aussi de casser les métiers. Et on parle de moins en moins de métiers, et de plus en plus d'emplois aussi, de tâches. En fait, il y aura des gens qui feront des tâches pour faire des programmes, mais qui seront déconnectés des compétences. En fait, c'est aussi ça, c'est ne pas faire appel aux compétences des personnes de la maison, mais toujours à les externaliser parce que soi-disant ça coûte moins cher.
Et là, effectivement, ça coûte moins cher. c'est la question.
J'aurais tendance à dire que non, mais c'est aussi puis c'est une grande maltraitance en fait envers les salariés. Là, il y a les gens du ménage, par exemple, qui... Enfin, ça peut paraître anecdotique, mais qui raconte que voilà, il y a des gens de ménage, ça fait 30 ans qu'ils sont dans la maison, et on fait faire le ménage des bureaux par les boîtes les extérieures, et puis on envoie les gens de Radio France dans les sous-sols avec les rats. Enfin, c'est aussi de vraiment maltraiter les salariés, quoi.
Voilà, parce que externaliser, c'est aussi pouvoir du coup mettre un marché à la concurrence et baisser les conditions de travail de ceux qui seront là, puisqu'ils devront ceux qui seront embauchés par la boîte qui aura proposé le moins cher.
Et j'ai bien entendu, tu as dit que Pôle emploi est coté en bourse, c'est ça?
Oui.
Non, c'est pas vrai.
Si, il y a des emprunts et où il y avait justement un problème quand on n'avait plus les 3A, c'était
ah oui, dans la bourse de la dette, donc donc les administrations maintenant sont aussi là, elles sont notées en termes d'endettement. Voilà, c'est réjouissant pour l'avenir puisque
oui, ça correspond à la pression qui est mise sur les choix
sur la rentabilité.
Alors, qu'est-ce qui, à votre avis, qu'est-ce qui motive le gouvernement, enfin, les gouvernements successifs, droite ou gauche, hein, de casser le public, de cette loi Macron qui vient d'arriver, qui casse tout aussi, voilà. Donc là, il y a quand même une tendance à, effectivement, à cristalliser tous les salariés et à les mettre dans une difficulté financière énorme, hein, pour le coup. Qu'est-ce qui, à votre avis, c'est quoi cette idée-là? C'est une idée simplement de faire des économies ou c'est simplement que
ben,
le gouvernement s'en sent vraiment les libéraux
parce que c'est le MEDEF qui gouverne. Enfin, voilà, c'est pas les choix, ils sont complètement limités tant qu'on se révoltera pas sur le fait de qui fait ses choix.
Ça risque pas d'arriver, peut-être.
Ah ben, mais j'espère bien que si. Par exemple, les concertations dont on parlait tout à l'heure ont quand même, dans le rapport qui en est sorti, donc les choses sont dites de façon assez soft, mais en gros, ça quand même, ça dit un échec du paritarisme. Ça dit que les choix qui ont été faits, c'était n'importe quoi et qu'il faut revenir dessus. Alors, par rapport à ça, ils proposent du coup une possibilité de modification pour les intermittents sur la façon dont vont se faire les négociations avec une prénégociation par les personnes du secteur et pas directement par les partenaires sociaux. Donc on peut se dire quand même que c'est une avancée, mais à se rendre compte que c'est très faible par rapport au constat d'échec qui en réalité est à cet endroit-là. Et dans tout ce qui est sorti comme communication autour de cette table, sur la fin de cette table, a été évoqué justement l'importance des associations, enfin des non-syndicats représentatifs du secteur par rapport aux propositions qui ont été faites et par rapport à la connaissance du système et par rapport à des désirs d'évolution. Et quand tout à l'heure Hélène évoquait le fait que c'est, enfin, Clémence, je sais plus sûr que pendant ces table de travail, en fait, si justement les assos en question n'avaient pas elles-mêmes demandé le travail, n'avaient pas elles-mêmes essayé de contacter les personnes qui devaient être présentes à ces tables pour qu'on puisse discuter, ça ne serait pas arrivé. Et donc ils reconnaissent cette expertise, donc, mais en même temps, ben, pour l'instant, la pré-négociation, c'est quand même les syndicats représentatifs.
Alors, oui,
du secteur.
C'est ça dont on n'a pas parlé, c'est que finalement, à chaque négociation, donc une EDIC, que ce soit l'annexe 8 ou 10, les intermittents ou les autres, finalement, les associations de chômeurs qui sont quand même les premiers concernés ne sont pas là. Représentées. Et j'imagine qu'en plus, pour les intermittents, le problème est double ou triple, puisqu'avant de trouver des syndicats représentatifs, au sein des intermittents, c'est pas forcément, ça va pas de soi. Enfin, en tout cas, on sait pas de quoi les syndicats sont représentés.
Non, je sais pas si c'est double ou triple parce que ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est quand même bien le fait que, il y a pas une suffisante considération du fait que le chômage concerne tous les salariés. Et du coup, peu de syndicats, vraiment prennent en main cette question-là. Dans l'ensemble des secteurs. Et ça, c'est un réel problème, en effet, qu'il faudrait que, à chaque fois, ce soit les premiers concernés qui puissent discuter, et pas seulement discuter et être écoutés, mais décider. Parce que s'il est juste question de, ben, ah ben, on a écouté ce que vous avez à dire, c'est très bien, et puis derrière, on en fait ce qu'on veut, ça change pas grand-chose. Mais d'ailleurs, par rapport à ce choix, cette modification qui a été à la suite des tables de concertation, qui dit justement qu'il va y avoir une première négociation, une pré-négociation dans le secteur. Quand je disais on peut dire que c'est bien, le problème c'est que cette pré-négociation, elle va être faite dans un cadre financier défini par les négociateurs interprofessionnels. c'est-à-dire un cadre financier défini par le MEDEF. Donc on sait que ça sera un cadre pourri, mais en plus ça donne ça va dans le sens de créer une caisse autonome pour les annexes, alors que on se bagarre justement pour que tout le monde reste dans la solidarité interprofessionnelle. L'an dernier, vu qu'il nous avait sorti l'histoire du déficit des annexes, on a passé je ne sais combien de temps à se bagarrer pour justement faire entendre que non, c'était un mensonge, il n'y avait pas un déficit des annexes, c'est une caisse autonome et c'est une re-répartition de l'ensemble. Et à nouveau, ils revont directement là-dedans. Et il y a dans les projets, il y a ce côté justement de tout faire par des caisses autonomes.
Oui, parce que c'est vrai qu'il y a une part de malhonnêteté aussi à si on la considérer, comment dire, que le régime intermittent serait à part du régime général, sachant que le propre de l'indemnisation, c'est effectivement que ceux qui travaillent ne consomment pas de droits. Donc effectivement, ceux qui, je dis ça parce que la Cour des comptes avait pondu une espèce de note où elle essayait de faire un comparatif CDI, CDD, voilà. Et donc c'était tordant, puisque finalement, bah oui, les CDI ne consomment pas de droits, puisqu'ils sont en CDI. Les CDD en consomment un peu plus, mais bon, le régime... Alors
il y avait des choses intéressantes dans ça.
Non, je dis pas. Ouais. Notamment d'ailleurs que Pôle Emploi, l'administration de Pôle Emploi coûtait énormément en fait, justement, au régime général de l'UNEDIC et qu'il intervenait dans le déficit.
Et le problème, en fait, que le fait qu'il faille payer des gens pour gérer les choses, c'est pas la question. Mais le problème, c'est qui est-ce qu'on paye et pour faire quoi? Parce que en fait c'est pas de l'argent qui va pour des agents de Pôle Emploi qui seraient là pour accueillir les gens et pouvoir discuter avec eux de leurs projets et les aider à avoir la meilleure indemnisation et la meilleure suite. Et alors c'est énormément d'argent qui va sur le remboursement de l'emprunt dont on parlait, puisque évidemment quand on fait des emprunts il y a des remboursements à faire et plus ça va pire c'est, et aussi justement sur le financement de boîtes extérieures pour faire les missions qui normalement devraient être celles de Pôle Emploi et qui sont pas bien faites.
Très bien, ben merci à toutes les trois d'être venues. Vous revenez quand vous voulez, bien sûr, s'il y a des changements dans la situation. Voilà, donc cette émission se termine. Je remercie messieurs dames de l'avoir suivi, merci de l'avoir faite avec moi. Pour ceux qui sont là, voilà. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Bisous aux filles et poignement aux garçons. Ciao.